VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 16 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Ukraine, la guerre. Le président Volodymyr Zelensky s'est adressé au Congrès américain par visioconférence. Nouvelle frappe des forces russes qui tentent d'encercler Kiev sous couvre-feu depuis hier soir. La Cour internationale de justice ordonne à Moscou de suspendre ses opérations militaires en Ukraine. Reprise du pré-dialogue tchadien à Doha avec des concertations sur le rôle du Qatar comme médiateur. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Le président ukrainien s'est adressé ce mercredi matin à l'ensemble du Congrès des États-Unis en direct par visioconférence. L'occasion pour Volodymyr Zelensky de renouveler son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Un compte-rendu de Jacques Aristide.
Une ovation debout de la part du Congrès américain, réuni au grand complet ce matin dans un auditorium du Capitole à Washington. C'est à Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qu'il est revenu d'introduire le chef de l'État ukrainien.
Mr. President, it is my honor to present to you the Congress of the United States, which has great respect.
Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter le Congrès des États-Unis, qui a beaucoup de respect, d'admiration et d'appréciation pour votre leadership courageux. Aux membres du Congrès, j'ai le privilège et l'insigne honneur de vous présenter le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Gloire à l'Ukraine.
En t-shirt kaki, le ton grave depuis l'Ukraine, le président Zelensky a d'emblée imploré les Américains et leurs alliés occidentaux de faire davantage pour sauver son pays face à l'invasion russe, en leur rappelant les plus sombres heures de leur histoire, à savoir les attaques de Pearl Harbor et du 11 septembre 2001. Reprenant le célébrissime « I have a dream » de Martin Luther King, Volodymyr Zelensky a renouvelé son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. « J'ai un rêve. Aujourd'hui, j'ai une nécessité, la nécessité de protéger notre ciel. J'ai besoin de votre aide », dit-il. Après une vidéo de son pays sous les bombes, ce plaidoyer direct à son homologue américain.
« At the leader of my nation. » I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation.
En tant que leader de ma nation, je m'adresse au Président Biden. Vous êtes le leader d'une nation, de votre grande nation.
Being the leader of the world,
je souhaite que vous soyez le leader du monde. Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix.
Slava Ukraine.
Glory to Ukraine.
Le locataire de la Maison-Blanche a déjà indiqué qu'une telle zone d'exclusion aérienne constituerait une escalade trop importante face à Moscou.
Par ailleurs, le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, s'est entretenu avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev. La capitale ukrainienne, Kiev, que les forces russes tentent d'encercler et qui est sous couvre-feu depuis hier soir après des frappes, a été à nouveau visée ce mercredi. Le point avec Rosine Mounezero.
Les tirs russes contre plusieurs villes ukrainiennes se sont intensifiés. Plusieurs explosions ont à nouveau été entendues à l'aube mercredi. D'épaisses colonnes de fumée noire s'élevaient au-dessus de Kiev, qui est sous couvre-feu depuis mardi soir et ce jusqu'à jeudi. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située au nord-est, et Mariupol, au sud-est, sont bombardées sans répit. La prise par Moscou de Mariupol serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait de faire complètement la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports de Berdyansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass. La ville de Zaporogie, largement épargnée jusqu'ici par l'offensive russe, a été visée par des frappes mercredi. L'Ukraine affirme que l'armée russe a déjà perdu environ 12 000 hommes, mais Moscou a annoncé le 2 mars un seul bilan de 498 soldats tués. Au moins 636 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués en Ukraine et plus de 1100 blessés, d'après le dernier décompte de l'ONU, qui souligne que ces bilans sont probablement très inférieurs à la réalité. En presque 3 semaines de guerre, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine, majoritairement vers la Pologne.
La Cour internationale de justice ordonne à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Le plus haut tribunal de l'ONU, saisi par Kiev, a rendu son verdict sur des mesures provisoires. Les précisions avec Abdourahmane Dia.
La Cour est parfaitement consciente de l'ampleur de la tragédie humaine qui se déroule en Ukraine. La Cour est profondément préoccupée par l'usage de la force par la Fédération de Russie en Ukraine, qui soulève de très graves questions de droit international, a déclaré la présidente de la Cour, Joanne Donahue, en lisant la décision sur les mesures provisoires. La CIJ déplore l'absence de la Russie à la haie, mais se déclare compétente pour statuer sur la procédure d'urgence introduite par l'Ukraine visant à ordonner à la Russie de cesser les opérations militaires en Ukraine. Kiev estime que la Russie a illégalement justifié son invasion en alléguant à tort un génocide contre les populations russophones dans les régions ukrainiennes de Donetsk et Lugansk. La Russie a refusé de comparaître lors des audiences tenues par la CIJ sur l'affaire les 7 et 8 mars. Mais dans un document écrit, Moscou a réfuté la compétence de la Cour sur la requête de l'Ukraine. La Russie a ajouté que l'invasion en Ukraine est un acte de légitime défense. Les jugements de la CIJ sont contraignants et sans appel, mais la Cour n'a aucun moyen de les faire respecter.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Reprise ce mercredi du pré-dialogue entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires à Doha, où le nombre de représentants a été fixé à 10 pour chacune des deux parties. Ils doivent maintenant gérer la question du rôle du Qatar, qui n'a pas encore accepté d'être médiateur. Nani Talani a joint Abdelhachidi Djorkodey, représentant du Front de la Nation pour la démocratie et la justice.
Nous allons beaucoup plus insister sur le rôle du Qatar. Parce que si le Qatar ne joue pas le rôle de médiateur, je pense qu'il n'y aura pas un pré-dialogue ici au Qatar. On ne voit pas cette volonté qu'ils ont affichée avant, quoi. Donc ils sont un peu démotivés.
Qu'allez-vous faire si le Qatar refusait de jouer ce rôle de médiateur?
Maintenant, ça dépend du gouvernement. S'il a toujours l'intention, s'il a toujours la volonté, s'il y a cette sincérité et l'honnêteté de continuer pour parler avec nous. Donc l'État a les moyens, l'État a aussi les contacts. Il peut contacter d'autres pays qui sont là, qui sont candidats et qui ont la volonté d'organiser ces pré-dialogues. Quand nous, on avait reçu les invitations, le Qatar voulait jouer le rôle de médiateur. C'était ça, c'est sur cette base qu'on est parti. Mais une fois arrivé, on a vu un nombre tellement important de politico-militaires, donc tout le monde était surpris. Il y a la Turquie, il y a aussi les Émirats, il y a d'autres pays qui ont demandé, mais ils ont préféré le Qatar. Si le Qatar ne peut pas accepter tous les 52 mouvements, et ils vont faire le choix entre les Émirats ou bien la Turquie.
C'était Abdelhachidi Djorkodey, représentant du groupe politico-militaire tchadien FNDJT. Des dizaines de Gambiens sont arrivés à Bounjia cette semaine, fuyant la zone frontalière avec le Sénégal, qui a lancé une opération contre des séparatistes de Casamance, retranchés à la frontière entre les deux États. Depuis dimanche, des résidents apeurés par les tirs d'artillerie ont commencé à fuir leurs habitations pour se mettre à l'abri, loin des opérations de l'armée sénégalaise. La lutte contre l'esclavage en Mauritanie est une priorité constante et irréversible des autorités, a affirmé ce mercredi à Nouakchott un responsable du pays lors d'une rencontre sur ce thème. La main du gouvernement est tendue à tous les forums et tribunes dans la légalité et le rejet de l'extrémisme afin d'éliminer dans les plus brefs délais l'esclavage et ses séquelles, a dit le commissaire aux droits de l'homme de Mauritanie, Cheikh Amedou Ould Sidi. En République démocratique du Congo, 5 jours après l'accident de train qui a fait au moins 75 morts, des rescapés expriment leur désarroi, reprochant aux autorités de les contraindre à voyager dans des conditions dangereuses. Ces voyageurs clandestins accusent aussi militaires et agents des chemins de fer d'empocher leur argent pour leur permettre de grimper dans des wagons de marchandises. Et au Maroc, 5 suspects affiliés à l'organisation l'organisation État islamique qui planifiait des attaques contre les forces de sécurité et des responsables gouvernementaux ont été arrêtés lors d'un nouveau coup de filet antiterroriste.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Nigeria, le groupe italien Eni lève le cas de force majeure sur les exportations de pétrole de son site Brass River. Il a pu achever les réparations d'un oléoduc endommagé par une explosion. Eni avait réduit d'environ 25 000 barils par jour ses exportations de pétrole et de gaz depuis son terminal Brass Export à la suite d'une explosion concernant cet oléoduc. La société américaine Chevron cherche à vendre ses participations dans 3 gisements de pétrole et de gaz en Guinée équatoriale, espérant qu'une récente hausse des prix de l'énergie contribuera à attirer des acheteurs. Chevron a engagé une banque d'investissement pour gérer le processus de vente qui pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars. Grâce à ses actifs en Guinée équatoriale, Chevron a ajouté 441 milliards de pieds cubes de gaz naturel à ses réserves en 2020. Terminons par la Tunisie où le puissant syndicat UGTT appelle à des augmentations de salaire en 2022 et 2023 et s'oppose aux réformes jugées douloureuses voulues par les prêteurs pour réduire les dépenses des entreprises publiques, les subventions et la masse salariale de l'État. Notre vision de la réforme est globale et profonde et sa base est la justice fiscale, affirme l'UGTT. Pour sa part, le gouvernement cherche un plan de sauvetage international pour éviter une crise des finances publiques.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaît les quatre clubs de la Conférence Sahara qualifiés pour les playoffs de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Hier, à la Dakar Arena, les Marocains de l'AS Salé ont assuré leur qualification en battant les hôtes sénégalais de Dakar Université Club 91-86. Les Sénégalais sont donc éliminés, tout comme les Mozambicains défaits par Rwanda Energy Group 94-89. Les Rwandais finissent premiers de cette conférence à Sahara, suivis par les Tunisiens de l'US Monastir. Les Marocains de l'AS Salé se classent troisième et les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club bouclent le podium qui poursuivra l'aventure lors de cette deuxième saison de la BAL. Les Marocains de l'AS Salé ont difficilement commencé le tournoi avant de se ressaisir, affirme Abdoulaye Harouna de Sali.
Je suis vraiment fier de mes coéquipiers parce que, comme je l'ai dit, on a eu des difficultés parce qu'on commençait avec le championnat local, on a perdu notre match contre une équipe qu'on ne devait pas perdre. Après, en coupe, on perd encore contre la même équipe. Mais malgré ça, les gars, on s'est concentrés, on est venus ici. Notre premier match encore, on perd. Mais on n'a pas laissé, on a continué à se battre et on a cru jusqu'au bout et voilà, le travail a recommencé.
Abdoulaye Harouna, joueur de l'AS Sali. Déception par contre pour les Sénégalais de Duc, éliminés et qui n'ont remporté qu'un seul match sur 5. Parfait Adjivon, coach du Duc.
C'est ça la vie sportive, hein. On était dans une aventure, on avait beaucoup d'espoir pour se qualifier. Maintenant le résultat est là, certes c'est amer pour tout le monde, surtout pour le beau public. Maintenant, on va tirer les conséquences après. Mais je dis, ce qu'il faut retenir quand même, on a eu aussi quand même en face de nous des équipes, quand même, ça il faut le reconnaître, des équipes qui ont eu de grands joueurs. Nous, on a GFG égal. Vous savez, au niveau, il y a certains détails qui vous font perdre.
Parfait Adjivon, coach de Dakar Université Club. 6 clubs de cette conférence Sahara se sont affrontés du 5 au 15 mars à la Dakar Arena. 15 matchs disputés. Des rencontres de haut niveau, selon le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, satisfait de cette première phase.
Une bonne entrée pour notre saison 2 ici à Dakar Arena. C'est vrai que l'édifice est vraiment de standard, comme ce qu'on a vu à Kigali, avec des matchs très relevés ici. D'abord, c'est un constat. On a vu que par rapport à la dernière, on constate déjà une amélioration en termes du niveau d'organisation des équipes, des recrues. Les équipes sont venues mieux préparées.
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, au micro de Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar. Les quatre clubs qualifiés pour cette conférence Sahara connaîtront leur adversaire des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nil prévue du 9 au 19 avril prochain.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Centrafrique, le dialogue républicain tant attendu se tiendra ce mois-ci. Les dates ont été confirmées hier par un décret du président Faustin Archange Touadéra. Plus de 400 participants sont attendus à ces pourparlers qui se dérouleront sans les groupes armés. Les précisions de Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique à Bangui.
Annoncé pour fin 2021, puis reporté en raison du retrait de l'opposition du comité préparatoire, ce dialogue tant attendu se tiendra finalement du 21 au 27 mars à Bangui. Selon les organisateurs, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces pourparlers. Hyacinthe Lungwa Yaoundou, président de la commission média.
Les entités qui devaient envoyer leurs représentants ont été déjà saisies. Ils ont envoyé la liste des participants au dialogue. Nous avons retenu au moins 6 grands thématiques qui vont être développées et 32 sous-thématiques. Donc, les 32 communicateurs, c'est-à-dire 32 intervenants, sont déjà identifiés. Nous les avons invités. Nous sommes assis autour de la table pour discuter de toutes ces questions et nous sommes bien avancés dans les préparatifs de la tenue de ce dialogue.
Les attentes sont nombreuses pour ce dialogue qui regroupera uniquement les forces vives de la nation. Les femmes, par exemple, ne souhaitent pas se présenter en spectatrices, mais plutôt en tant que force de proposition. Angeline Kaigama est secrétaire générale du Focus des femmes leaders pour la promotion de la parité en République centrafricaine.
Ce sont les femmes qui sont les principales victimes de toutes les crises que nous connaissons. Et aussi, nos voix n'ont pas souvent été entendues, mais cette fois-ci, de façon concertée et consensuelle, nous sommes en train de préparer pour avoir un langage commun, une vision commune des grandes décisions qui pourront découler du dialogue qui se prépare.
Pour Pamela Derome, présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, les jeunes sont à la fois bourreaux et victimes, d'où nécessité de mettre un accent particulier sur leur situation.
On mise beaucoup plus sur des questions politiques, sur des intérêts politiques en oubliant la jeunesse. C'est sur eux qu'on doit discuter, on doit réfléchir parce que l'avenir de ce pays dépend de ces jeunes. La question de l'éducation qui aujourd'hui pose problème en République centrafricaine doit être au centre de tout.
Même si les partis politiques sont partagés sur la nature de cette rencontre qui exclut les groupes armés, tous souhaite qu'une solution durable soit trouvée aux multiples crises militaro-politiques qui freinent le développement de la République centrafricaine. Pourquoi les groupes armés sont-ils exclus de ce dialogue? Hyacinthe Lungwa Yaoundou, président de la commission média du comité d'organisation, donne les raisons.
Aujourd'hui, on dit dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Ça va nous amener à réfléchir sur les mots qui minent notre pays pour que nous trouvions une solution définitive. Ceux qui ont pris les armes, ils vont se concerter avec le gouvernement pour essayer de discuter et voir comment il peut faire et trouver des solutions aussi. Je crois la différence de tous les forats que nous avons fait dans notre pays, c'est ça.
De son côté, l'ONU, à travers la MINUSCA, annonce une enveloppe de 50 millions de francs CFA et un appui logistique. Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.
En plus de cet appui financier, il y a un appui logistique avec l'appui au déplacement des représentants ou des forces vives qui viendront des différentes préfectures vers Bangui ou a lieu ce dialogue. En plus de cet appui financier et logistique, il y a un appui technique qui a commencé depuis que le comité d'organisation a été mis en place, et ceci à la demande des autorités.
Plus de 400 participants venus de Bangui et de l'intérieur du pays sont conviés à ce dialogue dont l'organisation devra coûter plus de 350 millions de francs CFA au gouvernement centrafricain. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, la situation des prisonniers est de plus en plus préoccupante, notamment celle des femmes. Elles disent avoir des difficultés à s'alimenter et sont exposées à diverses maladies. Suivons un reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Dans la prison de Sake, une cité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, Brigitte Ndoole, mère de deux enfants, purge sa peine, mais sa santé se détériore en raison des mauvaises conditions de vie. La même situation est vécue à la prison centrale Munzenze de la ville de Goma, où de nombreuses personnes attendent d'être fixées sur leur sort, dénonce Chantal Faïda, une ancienne militante de la Lucha, aujourd'hui actrice politique et militante des droits des femmes.
Il y a beaucoup de détenus et de prisonniers, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente d'être fixées sur leur sort. Et ils sont même oubliés, ils sont incarcérés sans procès, sans jugement. Et c'est là pendant plusieurs mois, ce qui est inacceptable. Nous demandons aux magistrats de pouvoir faire diligence pour que chaque détenu soit fixé sur son sort par un procès juste.
Lucette Moulekia, une activiste des droits de l'homme de la ville de Goma, estime que toutes les prisons devraient être vidées pour permettre aux détenus, surtout les femmes, de vivre aisément.
C'est une situation qui nécessite une intervention d'urgence pour pouvoir décongestionner des prisons, mais aussi venir en aide de manière spécifique aux femmes, d'autant plus que la femme, de par sa nature, elle a des besoins spécifiques. Et déjà, dans ces conditions-là, elle est exposée à des maladies.
Lors de sa dernière visite à Goma, Amato Bayobasire, le vice-ministre congolais de la justice, a promis de lancer un programme d'amélioration des conditions de vie des prisonniers et de construire davantage de maisons d'arrêt.
Comme responsable, on ne peut pas ne pas voir cet établissement important. Et surtout que lors de notre dernier passage à l'Assemblée nationale, certains élus du Nord Kivu avaient demandé à Madame la ministre d'État de visiter la prison de Munzenze à Goma. Pour reconnaître qu'il y a des choses à améliorer, les prisonniers doivent manger correctement, conformément à la volonté du président de la République. Nous devons construire de nouvelles prisons parce que dans certaines prisons, il y a des surpopulations.
Notons que la prison centrale de Munzenze, qui a été construite pour accueillir environ 350 prisonniers, compte actuellement plus de 2887 détenus. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, les Abidjanais s'indignent sur des cas d'effondrement d'immeubles. Le gouvernement monte au créneau, les premières sanctions tombent et dans la foulée, l'ordre des architectes fait des recommandations. Sur cette question, voici un dossier de notre correspondante Delphine Bowis.
Une semaine après l'effondrement d'un immeuble R+7 en construction dans la zone de Trècheville à Abidjan, c'est un autre immeuble, cette fois-ci de niveau 4 à Cocody-Angré, qui va s'affaisser au milieu de la nuit du 6 au 7 mars sur ses occupants. Bilan 7 décès, 30 personnes secourues, dont 13 évacuées dans les formations sanitaires, 17 mises en sécurité, de nombreux dégâts matériels. Sur le lieu du drame, on sent la grogne monter et l'indignation se mêler à la colère.
C'est encore le même regret, tristesse, désolation de voir un drame pareil se produire.
Un immeuble, c'est tout un poids. Bon, si vous partez chercher un maçon, mais il va te faire quelque chose qui ne va même pas durer. La maison va faire comment? Ça va s'écrouler.
Témoignage d'Innocent Latte, rescapé.
Moi, je suis au niveau 4. Je sors de mon sommeil. Je vois que tout est noir. Donc, mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone. J'essaie de m'éclairer pour sortir de là. C'est là que j'entendais les cris, les voisines de passer par là, au secours. En sortant même, la voisine d'en face a été projetée. Elle était même en face de moi. Il y avait des briques sur elle.
Des personnes interrogées dans les rues de la capitale indiquent que les responsabilités sont partagées.
En ce qui concerne les propriétaires d'immeubles, il y a une sorte d'incivisme.
Au niveau du ministère de la Construction, qui puisse vraiment assurer le contrôle des maisons qui pullulent un peu dans Abidjan.
Face à cette grogne des populations, le gouvernement a décidé de sévir. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement.
Il s'agit de la prise de sanctions administratives. À ce titre, pour les deux communes concernées, les chefs de zone ont été suspendus de leurs fonctions et les deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés.
En outre, le gouvernement gouvernement a décidé de renforcer l'action de contrôle des constructions de nouveau à Madou Koulibaly.
La mise en place de la brigade de contrôle mixte incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage.
L'ordre des architectes de Côte d'Ivoire se dit préoccupé par ces effondrements d'immeubles. Martine Dakoury-Tablé, membre de l'ordre et présidente de la maison de l'architecture d'Abidjan, fait des recommandations.
L'architecte va concevoir votre projet en se basant sur les différentes prérogatives qu'il a eues, que ce soit du certificat d'urbanisme ou du rapport d'étude de sol. Déjà, il faut faire appel à des entreprises qualifiées qui remplissent un certain cahier de charges que va rédiger l'architecte et l'ingénieur. Et ces deux personnes-là continuent de suivre le projet. Il y a encore le bureau de contrôle qui vient, en plus de l'architecte et de l'ingénieur, contrôler ce que ces différents protagonistes-là font. Quand le maître d'ouvrage s'entoure de tous ses professionnels, il peut être assuré sur son projet.
Delphine Bouiz, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le début des pourparlers à Doha entre le pouvoir tchadien et le nombreux groupes rebelles. Des discussions déjà suspendues mais jugées cruciales avant le dialogue national prévu à partir du 10 mai. N'Djamena souhaite la participation des groupes armés et des formations politiques à ce dialogue qui pourrait aboutir à un calendrier électoral permettant un retour à l'ordre constitutionnel. Le pouvoir et les groupes armés pourront-ils s'entendre à Doha? Qu'en est-il du processus de retour à un pouvoir civil? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Cameroun, le gouvernement promet de reconstruire les hôpitaux et les cliniques détruits par les terroristes de Boko Haram le long de la frontière avec le Nigeria. Lors d'une visite dans la région cette semaine, des responsables ont expliqué que ces installations sont nécessaires pour les villageois ayant souffert du conflit. Le point sur la situation dans un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, relaté par Rosine Munezero.
Le ministère camerounais de la Santé publique affirme qu'au moins 35 hôpitaux le long de la frontière du pays avec le Nigeria ont été abandonnés par le personnel médical ou détruits par les terroristes de Boko Haram. Le ministre de la Santé publique Malaki Manaouda a visité cette semaine certains des hôpitaux restants le long de la frontière.
On a trouvé un personnel motivé à prodiguer des soins aux populations dans un environnement qui n'est pas tout à fait facile. Nous allons renforcer en termes de personnel, en termes d'équipement, de plateau technique. Nous trouverons de la logistique également pour leur permettre d'être beaucoup plus mobiles sur le chantier qui doit avancer. Nous avons à peine 30 personnes.
Malaki Manaouda n'a pas précisé quand les hôpitaux seraient reconstruits. Mais le gouvernement camerounais entend investir 300 millions de dollars cette année pour reconstruire ce que Boko Haram a détruit. Les troupes gouvernementales combattent Boko Haram le long de la frontière avec le Nigeria depuis 2014. L'armée camerounaise a fait état d'environ 25 cas d'enlèvement et de kidnapping contre rançon cette année, mais pas d'attaque à grande échelle par le groupe terroriste. Selon toujours l'armée, le retour à la paix a permis à plusieurs milliers de personnes déplacées et d'anciens membres de Boko Haram de retourner dans leur village. Mais les soins de santé font cruellement défaut dans la région, affirme des travailleurs sociaux comme Jean-Pierre Ndende dans le district de Kolofata, qui s'est exprimé via une application de messagerie.
Nous recevons les individus de tout âge, mais majoritairement les jeunes, entre 15 ans à 35 ans. Toutes les affections psychologiques, tous les traumatismes que nous pouvons avoir, ça peut être un deuil, un échec, une séparation, la précarité de la vie, la pauvreté, les difficultés à réunir les deux bouts, qui vient oppresser l'individu, qui se retrouve dans la maladie mentale.
S'adressant à la radio d'État camerounaise CRTV cette semaine, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a dit que l'armée aide les civils en attendant que le gouvernement reconstruise les hôpitaux.
Nos forces de défense se sont mises aux côtés des populations qui ont tant souffert des affres de la secte Boko Haram. Ces forces les ont assistées au plan sanitaire, au plan éducatif. Nous avons également eu des caravanes médicales qui ont sillonné les villages.
Selon le gouverneur Midiawa Bakari, des milliers de combattants et de partisans de Boko Haram ont quitté le groupe terroriste depuis mai dernier, lorsque le chef des militants nigérians Abubakar Shekau a été déclaré mort. Les Nations Unies rapportent que le conflit de Boko Haram, qui a débuté il y a 13 ans dans le nord-est du Nigeria, a fait plus de 35 000 morts et 2 millions de déplacés au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagno. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.